Des ondes, des ailes, sur Radio Ondaine, un rendez-vous mensuel avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de la Loire. Un tour d'horizon en vol groupé pour découvrir les oiseaux de notre territoire, la faune, la flore et toutes les personnes qui s'engagent pour connaître, protéger, sensibiliser et favoriser la biodiversité. La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO Loire, une association au service de la nature et des hommes, sur Radio Ondaine 90.9 FM et sur le www.radio-ondaine.fr.
Et pour ce mois de novembre, nous allons évoquer les migrations d'oiseaux, et ce, avec Bernard Dora, bénévole adhérent à la LPO, interrogé à ce sujet. Nous sommes le jour de cette interview, le 19 octobre, en pleine période d'observation. Bonjour monsieur Dora, bienvenue sur l'antenne de Radio Ondaine. On s'était contacté il y a deux jours de cela, vous étiez déjà en poste d'observation pour ces migrations d'oiseaux. La période est propice en ce moment, c'est maintenant qu'on les regarde, c'est ça?
Oui, eh ben, écoutez, ce matin, on est en pleine période de migration, enfin, pour certaines espèces, et même la fin de migration, parce que certaines sont déjà en Afrique, hein, et pour tout ce qui est dit migrateurs partiels, savoir ceux qui restent un peu en Europe et qui vont même jusqu'au Maghreb, eh bien, on est en pleine période de migration, là, c'est en train de, les oiseaux sont en train de franchir, donc arrivent du nord pour partir sur leur lieu d'hivernage, où ils vont pouvoir se nourrir pour l'hiver et passer une bonne partie d'hiver sur ces lieux d'hivernage, donc dans le sud du continent.
Alors, effectivement, voilà. C'est la définition de la migration. Ce sont ces espèces d'oiseaux qui vont chercher un peu de confort pour passer l'hiver. Sans détailler toutes les espèces qui migrent, vous observez quels oiseaux en ce moment, quels sont ceux qui sont le plus remarquables?
Alors actuellement, bon, c'est surtout des oiseaux qu'on appelle des migrateurs partiels. Donc, c'est des oiseaux qui nous viennent, enfin, d'Europe, hein, d'Europe du Nord, hein, qui sont qu'on peut trouver des espèces qu'on peut trouver aussi sédentaires, entre guillemets sédentaires, chez nous, c'est-à-dire sédentaires qui restent à peu près toute l'année. J'en citerai deux trois, hein, et qui bon partent du Nord parce que ils ont un problème, ils vont devoir se nourrir, et du fait que dans le Nord de l'Europe, ben, la nuit tombe beaucoup relativement plus tôt, qu'il y a des gels beaucoup plus précoces, un peu plus de neige, même si bon, on va voir un peu avec les problèmes de réchauffement climatique, entre autres, hein, ce qui va se passer dans les années futures. Eh bien, il va falloir que ces oiseaux partent pour pouvoir se nourrir. Donc, c'est des oiseaux qui vont passer, donc qui sont granivores, hein, pour la plupart en hiver, hein, et qui vont s'installer chez nous, ou faire des sauts de puce, ou remplacer d'autres espèces qui, elles, sont parties plus au sud. Voilà. Donc, pour en citer quelques-unes que tout le monde connaît, donc il y a les chardonnerets, les pinsons, etc., toutes ces espèces, voilà.
Si l'on parle de ces oiseaux sédentaires, ceux qui vont s'installer ici, comment ça se passe la cohabitation avec les espèces déjà présentes qui vont, elles, rester tout au long de l'année et qui ne vont pas effectuer la migration? Est-ce que ça se passe bien, la cohabitation?
Ben, tant qu'il y a à manger, oui, ça se passe bien, hein, il n'y a pas de problème. Après, derrière, s'il y a des problèmes de nourriture, les oiseaux, enfin les oiseaux dits sédentaires, qui sont sédentaires, peuvent partir, peuvent aller sur d'autres, chercher d'autres milieux après, derrière, pour pouvoir se nourrir. À savoir, ils ont une facilité de déplacement qui est le vol, hein, et une sédentarisation n'est jamais très effective pour un oiseau, hein. Après, derrière, il peut faire 400, 500, 600, 1000 kilomètres, enfin, très facilement, je m'entends, hein, mais c'est pas de l'incontournable pour eux. Voilà, donc ils vont après, s'il y a des problèmes de nourriture, partir et pas s'installer définitivement, enfin, en guillemets, en hivernage pour passer l'hiver, quoi. Ils vont pouvoir continuer à prospecter sur des zones où là, ils vont pouvoir trouver à manger. Voilà.
Alors, votre rôle à la LPO, c'est donc l'observation de ces migrations, pourquoi pas le comptage. Est-ce qu'il y a des lieux spécifiques où l'on peut observer ces migrations? Est-ce que c'est plutôt dans des zones rurales où l'on peut observer aussi des phénomènes de migration dans des zones urbaines?
Alors, on peut observer la migration Partout, en fait, partout, hein. Que ce soit en ville, sur Saint-Étienne, Firminy, etc. Lorsqu'il y a des gros flux migratoires, on voit arriver des oiseaux, repasser des oiseaux, que ce soit en vol battu, en vol plané, etc., ou en formation, hein. On voit pour arriver des oiseaux toujours dans les mêmes directions, hein, à savoir dans nos régions nord-est, sud-ouest, et on voit passer des flots d'oiseaux migrateurs. Bon, alors, quelquefois, on les voit très très bien parce que, en fonction des conditions météo, ils sont obligés de lutter contre les vents, contre le brouillard, contre la pluie, etc. Et quelquefois, on voit rien, mais c'est pas pour cela qu'ils ne passent pas d'oiseaux, hein. Ils passent beaucoup plus haut, relativement plus haut. Et puis bon, il faut savoir un peu observer et puis écouter aussi, parce que les oiseaux, lorsqu'ils franchissent, eh bien, ils ont des cris un peu spécifiques, que ce soit de jour comme de nuit, hein, d'ailleurs, hein. Et si on se met, par exemple, en ville, la nuit, lorsque il n'y a pas de bruit, le bruit ambiant des voitures qui roulent, des klaxons, enfin, etc., et sur 1 heure, 2 heures du matin, et si vous écoutez, vous ouvrez vos fenêtres, vous pouvez entendre des petits cris en période de migration, et c'est ces oiseaux qui franchissent, qui sont des migrateurs nocturnes, genre rouge-gorge, fauvette, etc., qui ont des cris spécifiques et qu'on entend même la nuit en ville et en zone rurale, bien sûr, hein, aussi. Hein. Voilà. Pour ce qui est des passages, on peut voir partout. Après, les zones spécifiques, si vous voulez vraiment observer des oiseaux, eh bien, il y a des couloirs de migration, ce qu'on appelle les couloirs de migration. Alors, il y en a un peu partout dans le département, hein. Qui sont plus ou moins, comment dire, accessibles, et puis où on peut voir plus ou moins de choses, hein. Il suffit de trouver une vallée qui est orientée nord-est, sud-ouest, et d'attendre un peu qu'il y ait du vent du sud pour pouvoir observer très facilement des oiseaux migrateurs, hein. Vous verrez toujours des groupes qui passent, toujours dans la même direction, jamais les mêmes, du nord-est, sud-ouest, qui se dirigent tout le temps dans cette même direction.
Alors, quand vous avez votre casquette de LPO pour compter finalement ces oiseaux, pour repérer, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que on parle d'une période, par exemple, si l'on regarde les températures de ce moment qui sont assez clémentes, est-ce que là vous voyez peut-être des oiseaux qui vont rester un peu plus longtemps dans notre région avant d'entamer le grand départ ensuite vers le sud pour les espèces qui descendent très bas. Est-ce que voilà le changement un peu climatique font que ces migrations se voient un peu modifiées?
Pour certaines espèces, hein, sans doute, hein, je ne peux pas trop vous parler comme ça parce que c'est en cours d'analyse, ça, tout ça, c'est en cours d'analyse, hein, par des chercheurs, hein, qui sont en train de se pencher un peu là-dessus. Donc, je ne pourrais pas trop vous parler de la globalité de ces phénomènes. Hein. Toujours est-il, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même des facteurs météo qui influent, hein, énormément. Hein. Alors, ça dépend des espèces. Hein. Il y a des espèces qu'il faut comment dire, comme les chaleurs qu'on a actuellement, eh ben, ces espèces passent quand même. Hein. Voilà, il faut qu'elles franchissent, il faut qu'elles soient à un certain endroit à telle période. Il n'y a pas de dérogation, là, c'est assez bizarre d'ailleurs. Hein. Et puis il y en a d'autres, alors il y en a d'autres, oui, en fonction du climat. Et c'est pas tant la chaleur, mais c'est en fonction des ressources alimentaires, et puis bien sûr du froid, hein, ben elles vont plus ou moins retarder leur départ. Hein. Bon, alors elles vont pas le retarder de façon exagérée, hein. Il va y avoir 4-5 jours peut-être de délai pour qu'ils franchissent. Mais sinon, voilà, oui, quelquefois, eh ben, il peut y avoir des petites modifications. C'est pas des grandes modifications, hein. Voilà. Par contre, pour ce qui est des lieux d'hivernage, si vous me permettez, il y a des modifications sur des lieux d'hivernage justement à cause de ces perturbations entre guillemets climatiques. Hein. Voilà.
On parlait de ces espèces qui pouvaient être observées dans le ciel, souvent en nuées d'oiseaux. Est-ce qu'il y a des oiseaux aussi qui migrent de façon solitaire?
Alors oui, alors là, ça dépend des stratégies. Donc, les oiseaux en migration, il y a plusieurs stratégies de migration, de vol entre guillemets, voilà. Si vous voulez, il y a peut-être trois grandes stratégies. Il y a les fameux vols en formation là, où on voit énormément d'oiseaux en V, hein, Voilà. Alors bien souvent, les gens pensent que c'est des oies lorsque c'est en V, lorsque ça passe chez nous. Il n'y a pas que les oies qui volent en V, hein. Il y a les oies, tous les laridés, enfin les laridés, les mouettes, goélands, etc., volent soit en ligne, soit en V. Grand cormoran vole en V. Certains limicoles, des oiseaux qui sont inféodés aux vasières, volent en V ou en ligne aussi. Il hein. Y a les oies, bien sûr, il y a les grues. Là, à partir du mois de novembre, on va avoir des passages de grues qui passent de jour et de nuit. Bon, elles crient aussi énormément, mais elles volent en V aussi, donc, ou en ligne, ou un peu groupées aussi. Voilà. Il y a une autre stratégie qui est le vol battu, mais en groupe. Celles qu'on voit s'ennuyer, hein. Donc là, bon, c'est beaucoup des oiseaux granivores, etc., qui s'aident entre eux pour passer. Mais c'est au lieu de se mettre en V, c'est le groupe qui forme un peu comme un peloton de vélo. Les gens qui font du vélo connaissent bien ça. Et puis, bien sûr, il y a des planeurs. Alors, les planeurs, eux, vont voler individuellement, mais se regrouper pour passer. Donc, il va y avoir des individus qui vont prospecter des ascendances d'air chaud pour les utiliser. Voilà. Et puis lorsqu'ils vont trouver une ascendance, eh ben ils vont tourner pour un peu comme les gens qui font de l'ULM ou
Du
du
parapente.
deltaplane, voilà, du parapente, voilà. Et ils vont trouver ces ascendances. Et tout autour d'eux, ben, il y a d'autres oiseaux qui font la même chose. Et donc comme ces oiseaux, c'est surtout les rapaces, les planeurs, genre cigogne, milan royaux, enfin buse, etc. Surtout ce type d'oiseaux, hein, qui vont voir ça. Et ben lorsqu'ils vont s'apercevoir que l'un d'entre eux a trouvé ou un autre individu qui plane a trouvé une belle ascendance, et ben on va se rapprocher, vont se mettre avec eux et vont utiliser cette même ascendance pour ensuite aller plus haut que l'école qu'ils ont à franchir ou les distances qu'ils ont à faire pour se laisser ensuite porter par enfin descendre à nouveau pour retrouver l'ascendance quelques kilomètres, dizaines de kilomètres plus loin. Voilà, donc il y a des oiseaux qu'on peut voir tout seul. Ouais. Ça sera surtout des rapaces qui vont chercher ou des grands planeurs.
Alors, cette période de migration hivernale, c'est donc jusqu'à quelle date à peu près? Expliquez-nous.
Alors, les migrations, alors il y aura deux types de migrateurs. Il y aura des types de migrateurs transsahariens, ce qu'on appelle transsahariens. En général, c'est des oiseaux qui partent chez nous août, septembre, pour arriver sur le lieu d'hivernage en octobre. Hein, voilà. Donc, ceux-là, on ne va pas les voir. Par contre, nous, ce qu'on est en train de réaliser quand on fait des comptages sur la migration, là, c'est des oiseaux qu'on appelle migrateurs partiels, donc qui font quand même quelques milliers de kilomètres, hein, et qui vont arrêter leur migration à partir, enfin, on cale en général au 15 novembre, on estime que les migrations sont effectives. Après, derrière, les oiseaux sont installés sur les lieux d'hivernage. Hein. Voilà à peu près la durée des migrations.
Alors on a l'aller, on a le retour aussi, c'est quelle période au niveau du printemps?
Alors, au niveau du printemps, ça démarre très très tôt. Enfin, les premiers migrateurs qu'on va pouvoir observer. Alors, dans la Loire, on n'a pas d'école bien spécifique pour la migration. Hein. Et ça sera plutôt à d'autres endroits de la région Rhône-Alpes. On verra ça. Mais sinon, à partir du mois de février, du 15 février, les premiers grands mouvements migratoires se font voir. Hein. Pour continuer jusqu'à fin mai, on va dire à mi-mai, les migrations de printemps sont finies. Hein, voilà.
Alors ça donnera l'occasion d'en reparler. Dans cette émission des ondes, des ailes sur Radio Ondenne proposée en partenariat avec la LPO, nous invitons nos interlocuteurs, et en l'occurrence vous, Bernard Dorat, à partager peut-être une anecdote particulière, quelque chose d'étonnant que vous avez pu vivre sur une observation et notamment là sur ces migrations d'oiseaux. Est-ce qu'un jour vous avez été surpris par une espèce, par un oiseau, par un comportement? Et quelque chose qui vous a marqué dans vos observations.
Oui, il y a plusieurs choses. Moi, je suis un peu un contemplatif, on va dire, et donc c'est tellement beau quand on voit passer des oiseaux, hein, quelque chose que ce soit. Hein. Enfin, oui, il y a plusieurs choses. Il y en a une qui me revient juste à l'esprit. C'est un jour, j'observais enfin, des oiseaux en migration, quand j'étais en train de comptabiliser des oiseaux. Et je vois un oiseau bon, qui planait. Bon, je reconnaissais de loin, on a des outils pour repérer d'assez loin, et puis pour surtout identifier. Et donc, je vois, c'était un balbuzard pêcheur qui cherchait une ascendance, un oiseau un peu solitaire, hein, cherchait une ascendance. Et il avait des. On était à 1200 mètres d'altitude, hein, pour vous dire, un peu plus de 1100. Et il avait quelque chose dans les serres. Hein, et en fait, il avait un gros poisson dans les serres, c'est-à-dire qu'il avait pêché, soit dans la Loire, soit dans toute une forêt, un poisson pour manger. Hein, et il avait continué sa migration avec un gros poisson dans les serres, et il était. Bah, à vol d'oiseau, il était à une vingtaine de kilomètres de tout point de haut, et il continuait sa migration, donc il emmenait son manger pour pouvoir un peu s'installer, bah, peut-être, je sais pas, près dans le Puy-Dôme ou ailleurs, quand il serait arrêté, pour pouvoir manger son poisson. C'était assez phénoménal, parce qu'en même temps, il trouvait des ascendances assez facilement. Mais le poids du poisson le gênait énormément. Enfin, c'était assez. Il avait un drôle de comportement, c'est ce qui m'avait intrigué, quoi.
Oui,
Juste à cause de ce poids,
il s'était sûrement dit que l'année d'avant, il n'avait pas trouvé de nourriture sur la route à
ouais.
l'endroit où il s'arrêtait habituellement et que là, il avait prévu.
Sans doute, ouais, il avait peut-être une petite disette ou un creux un jour, et donc il s'était dit, voilà, il avait, comme on dit dans la région, il avait mis son grand dos.
Eh ben, merci Bernard Dora d'avoir pris ces quelques minutes et puis bonne poursuite d'observation.
Ok, merci à vous, bonne journée à tous, hein, au revoir.